Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Près de 80 millions de personnes ont été déplacées et réfugiées dans le monde l'année dernière. Fuyant la guerre, les conflits ou les persécutions, elles n'arrivent pas à rentrer chez elles, notamment à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. L'étude est publiée par les Nations Unies ce matin, nous l'analyserons dans un instant.
Et puis nous reviendrons aussi sur le plan de suppression de postes qui se dessine chez Air France. Les syndicats évoquent 8 à 10 000 emplois d'ici 2022, la direction ne confirme pas.
Le protocole sanitaire dans les écoles à partir de lundi est acté. Il a été envoyé hier soir par le ministère de l'Éducation nationale. Les règles de distanciation physique sont assouplies.
Et puis Emmanuel Macron est attendu à Londres ce jeudi pour les 80 ans de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. L'amitié franco-britannique sera à l'honneur, vous l'entendrez.
Après cette édition, Frédéric Seyss nous rejoindra pour se demander si le Premier ministre Édouard Philippe est invirable. Son billet politique à 8h16. Et l'on commence donc par ce triste record calculé par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. L'année dernière, en 2019, il y a eu 79,5 millions de déplacés et de réfugiés dans le monde. Cela représente 1% de l'humanité. Le HCR évoque davantage de personnes déracinées dans une situation toujours plus précaire et sur du long terme, car la pandémie de Covid-19 en ce début d'année a empêché ces réfugiés de rentrer, Marie-Pierre Véraud.
Impossible de rentrer chez soi. Il y a 30 ans, 1,5 million de réfugiés pouvaient chaque année espérer revenir dans leur pays. C'est moins de 400 000 aujourd'hui, sur près de 80 millions de déplacés. La fermeture des frontières liée à la pandémie n'aidera sans doute pas, mais le virus a déjà frappé durement une population vulnérable et tellement précaire. C'est le cas des Syriens réfugiés au Liban. Céline Schmitt, porte-parole du HCR.
La situation du Covid a encore amplifié leurs difficultés. Plus de la moitié des réfugiés qu'on a interrogés en mai ont déclaré qu'ils avaient perdu leurs moyens de subsistance, y compris leur emploi, parce que ce sont souvent des emplois journaliers. Et de ce fait aussi, beaucoup d'entre eux, plus de 70% d'entre eux, nous ont indiqué qu'ils ont été forcés de diminuer le nombre de leurs repas par jour.
Plus de 80% des réfugiés se retrouvent en outre dans des pays en développement au système sanitaire fragile. Mais il n'y a pas que les hôpitaux et la santé. Que dire des enfants déjà déracinés avec un accès plus que difficile à l'éducation? La pandémie est venue fermer les écoles, dans les camps aussi. Or, les enfants déplacés sont plus de 30 millions, soit le total cumulé des populations de l'Australie, du Danemark et de la Mongolie.
C'était Marie-Pierre Véraud pour cet éclairage matinal. C'est le 7e plan de la compagnie en 11 ans, 7e plan de transformation pour Air France qui se prépare à réduire la voilure en supprimant des postes, entre 8 et 10 000 postes d'ici à 2022. Voilà ce que disent en tout cas les syndicats. Cela représente 15 à 20% des effectifs, alors que la compagnie aérienne subit un effondrement du trafic, ça s'est avéré, à cause de la crise du nouveau coronavirus de ces derniers mois. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Ce plan passerait par des départs volontaires.
Oui, pour les personnels au sol qui devraient être les plus touchés, 6 000 postes à eux seuls. On parle là de ceux qui travaillent dans les aéroports, mais aussi de salariés dans les fonctions dites support, comme les ressources humaines, l'administratif. Pour eux donc, un plan de départ volontaire est en préparation. En ce qui concerne les pilotes et les hôtesses et stewards, la compagnie a recours à un autre outil, la rupture conventionnelle collective, née des ordonnances travail. Ce dispositif permettra de recruter plus vite quand la situation économique s'améliorera. Des négociations sont en cours avec les syndicats et le plan définitif sera présenté fin juin, début juillet. Toutes catégories confondues, c'est la filiale régionale du groupe baptisée HOP qui devrait être la plus impactée. Le plan d'Air France passe en effet notamment par une réorganisation de son activité domestique en difficulté. Fin mai, le directeur général d'Air France, Ben Smith, avait annoncé un plan de réduction de 40% de l'offre sur les vols nationaux d'ici à fin 2021. L'État lui a aussi demandé, pour améliorer son impact environnemental, de supprimer les liaisons accessibles à 2h30 par le train, condition posée pour lui accorder un soutien financier de 7 milliards d'euros.
Et justement, Anne-Laure, à propos de cette aide financière par l'État, je vous propose d'écouter la réaction de Vincent Salco, secrétaire général de la CGT chez Air France.
Il y a des aides publiques qui sont données à une entreprise privée par l'État, par le gouvernement actuel, à hauteur de 7 milliards. Tout ça pour, au final, donner un blanc-seing à la direction d'Air France et à Benjamin Smith pour supprimer des emplois. C'est le personnel au sol qui va le plus trinquer, notamment sur le réseau domestique. Il est hors de question que les 7 milliards ça va supprimer des emplois.
Alors Anne-Laure Jumet, nous vous retrouvons avec cette question. Y avait-il une garantie de l'État français pour éviter les suppressions de postes en échange de cette aide financière ?
Non, pas de garantie ni d'engagement, pas plus d'ailleurs que pour Renault qui va supprimer lui aussi plusieurs milliers de postes. À l'époque, l'État avait expliqué que c'est l'avenir du groupe automobile qui était en jeu. Il y a quelques instants, sur France Inter, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, n'a pas dit autre chose à propos d'Air France. Il faut, dit-il, tenir un langage de vérité, parlant d'ajustements nécessaires, même si il souhaite, hein, il l'a dit, qu'il y ait moins de 8000 suppressions de postes à l'arrivée. Il demande toutefois à la compagnie qu'il n'y ait pas de départ forcé. C'est, dit-il, la ligne rouge.
Merci beaucoup Anne-Laure Jumet, chef du service économie de France Culture. Anne-Laure, vous évoquiez par ailleurs hier les difficultés économiques dans la presse, dans votre billet économique. Et bien notons ce matin que les salariés du quotidien Le Parisien ont refusé la suppression des éditions départementales ainsi qu'un plan de départ. Notons aussi dans l'audiovisuel que le groupe Next Radio TV envisage de supprimer 330 à 380 postes, notamment chez BFM et RMC, sans compter les pigistes et les intermittents. La maison mère anticipe en fait un écroulement des recettes publicitaires après la crise sanitaire. Voilà pour le tableau économique du jour. Et pourtant, la France serait moins durement touchée qu'annoncée. C'est ce qui ressort de la dernière note de conjoncture de l'INSEE qui a été publiée hier soir. La reprise d'activité ne chute que, si l'on puis dire, de 17% du PIB contre 20% il y a quelques semaines. Des chiffres que l'INSEE peut calculer grâce à de nouveaux outils, Catherine Pétillon.
Pour observer cette crise exceptionnelle, rapide et de grande ampleur, l'INSEE a mobilisé de nouveaux indicateurs. Habitué aux publications mensuelles ou trimestrielles, l'organisme statistique a cette fois documenté semaine après semaine les évolutions. Et pour cela, il a fait appel à des indicateurs dits haute fréquence, c'est-à-dire disponibles très rapidement. Frédéric Tellet est le chef de la division synthèse conjoncturelle de l'INSEE.
Nous avons utilisé des sources qui n'étaient auparavant pas utilisées, notamment les données de cartes bancaires, pour retracer la baisse de consommation des ménages, des données de téléphonie mobile pour mesurer l'ampleur de la chute des déplacements domicile-travail. Et puis, nous avons pu aussi utiliser les données de caisse de consommation dans les super et hypermarchés. La mise à disposition de la part des fournisseurs de données de ces données ont permis, outre la rapidité de l'information, d'apporter des éclairages complémentaires à ce que nous mesurions auparavant.
À cela s'ajoute l'observation de recherche Google ou encore celle des déplacements enregistrés dans les applications mobiles. L'INSEE a également créé un indicateur de sentiment médiatique pour observer la tonalité des articles des journaux économiques. Autant d'accès à de nouvelles données accélérées par la crise, laquelle a provoqué la signature rapide de conventions avec ceux qui les produisent. Voilà qui pourrait, au-delà, modifier durablement les méthodes d'observation des évolutions économiques.
Des séquelles à long terme quand le nombre de malades hospitalisés à cause de la Covid-19 baisse encore. La France a enregistré 28 décès supplémentaires hier en attendant toujours le chiffre dans les EHPAD. L'Assemblée nationale a adopté par ailleurs hier le projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire après le 10 juillet. Une période transitoire jusqu'à l'automne permettra toutefois des restrictions possibles si le gouvernement le décide. Et pour que la vie quotidienne reprenne, le fameux protocole sanitaire dans les écoles a été officiellement publié hier soir. Il est plus souple qu'annoncé. Plus de distance obligatoire en maternelle, une relative souplesse en élémentaire et au collège. Depuis la mi-mai, un élève sur quatre est retourné à l'école. École qui sera obligatoire à partir de lundi et pour les deux prochaines semaines. La vie reprend son cours et avec elle, les débats à l'Assemblée nationale. A été voté hier en commission des détails sur la sortie de prison pour les détenus condamnés pour des faits de terrorisme. Sur les 530 détenus concernés actuellement, 150 devraient sortir d'ici 2 ans. La proposition de loi portée par la députée de la majorité Yaël Braun-Pivet veut assurer un suivi plus important, Florence Turm.
La loi de sécurité intérieure, votée en octobre 2017, comporte déjà plusieurs mesures de surveillance pour les détenus condamnés dans des dossiers liés au terrorisme, mais ce sont principalement des mesures de suivi administratif. Et Yaël Braun-Pivet veut aller plus loin encore, sur le terrain judiciaire cette fois, pour éviter au maximum, dit-elle, les risques de récidive.
Il y aura une évaluation de la personne et de sa dangerosité, et si la juridiction estime qu'il faut un suivi, elle pourra donc demander à l'intéressé donc d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de pointer jusqu'à 3 fois par semaine dans un commissariat, de demander au juge une autorisation pour quitter le territoire et également d'être astreinte à un suivi. Et il y aura bien évidemment une clause de revoyure tous les ans pour s'assurer s'assurer que le dispositif est toujours nécessaire pour préserver la sécurité des Français.
La proposition de loi initiale prévoyait le renouvellement de ces mesures jusqu'à 10 ans pour des faits délictuels, 20 pour des condamnations criminelles. Après consultation du Conseil d'État, elle a revu le seuil à la baisse. À 5 et 10 ans, le placement sous bracelet électronique figurait également dans le texte, mais il a été retiré afin de ne pas risquer une censure du Conseil constitutionnel en raison des restrictions de liberté qu'il induit. Mais cette mesure devrait revenir sous forme d'amendement lors de la discussion à l'Assemblée et vraisemblablement susciter un nouveau débat.
C'était Florence Turme. Bruno Le Maire confirme ce matin avoir reçu une lettre du gouvernement américain. Washington refuse bel et bien de poursuivre les discussions sur une taxe numérique. Pour le ministre français de l'économie, c'est une provocation. Il confirme que la France taxera bien les géants du numérique en 2020.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Pour la première fois depuis le début du mois de février, Emmanuel Macron effectuera un déplacement hors de France aujourd'hui.
Oui, il sera cet après-midi à Londres pour les célébrations de l'appel du 18 juin 1940, 80 ans après. Le président de la République témoignera également de l'amitié franco-britannique. Il remettra notamment une légion d'honneur symbolique dans la capitale anglaise, Antoine Géniaud.
Une gerbe de fleurs au pied de la statue du roi George VI et de la reine Élisabeth, une autre devant la statue du général de Gaulle, c'est le lien entre la France et le Royaume-Uni qu'Emmanuel Macron veut mettre en avant. Lien historique en dépit du Brexit. Pas question de parler de négociations commerciales. Le président de la République va rencontrer le Premier ministre Boris Johnson et discuter de l'avenir des programmes communs en matière de sécurité, de défense, de géopolitique. Mais il n'y aura sur le sujet ni déclaration ni conférence de presse. L'Élysée met l'accent sur les symboles, la Légion d'honneur remise au prince Charles en présence du maire de Londres pour célébrer le rôle central de la capitale britannique pendant la guerre. Seules deux autres villes ont déjà reçu des distinctions similaires, Alger et Brazzaville. Il y aura aussi le passage dans le ciel de la patrouille de France et des pilotes britanniques des Red Arrows, la visite enfin des anciens bureaux de Charles de Gaulle avec des documents historiques liés à la création des forces françaises libres, un symbole opportun pour le président de la République qui, depuis son arrivée au pouvoir, a fait ajouter la croix de Lorraine sur l'emblème de l'Élysée et pose sur sa photo officielle avec un exemplaire des mémoires de guerre du général.
Et nous reviendrons après ce journal sur l'héritage de cet appel du général de Gaulle avec Jean-Noël Jeannonet, invité des Matins de France Culture ce jeudi. Vous pouvez également retrouver un article sur le général de Gaulle, seul face à l'histoire. Il est en une de notre site franceculture.fr. L'Organisation mondiale de la santé arrête les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine pour lutter contre le nouveau coronavirus. Cet antipaludéen est, selon l'OMS, ne réduit pas le taux de mortalité. Un virus qui se propage toujours en Asie du Sud-Est et en Amérique. On apprend par exemple que le président du Honduras a été testé positif. Il est hospitalisé. Revenons maintenant en Europe où le retour des touristes après la crise sanitaire se fait toujours attendre. La Croatie, nouvel Eldorado des fêtards, risque par exemple de passer un été bien calme. On est loin des 2 millions de personnes qui y faisaient la fête l'année dernière, Eric Biegala.
C'est la première beach party de la saison à Zadar. Ils ne sont qu'une grosse vingtaine pour essayer de faire repartir ce tourisme de fête qui avait pris ici d'énormes proportions. Mate Kokic, l'un des DJ de ce soir, en rappelle la genèse.
C'est un membre de UB40 qui est venu s'installer à Zadar. Et les premières fêtes qu'il organisait, c'était presque comme ce soir, dans les bois ou sur la plage, avec pas plus d'une centaine de personnes. L'année suivante, il s'est dit, on recommence, mais cette fois, on invite les copains de Grande-Bretagne. C'est comme ça que l'invasion a commencé.
L'invasion des clubbers, britanniques essentiellement, et la gestion de la chose, c'est le business de Loretta Bacic, qui organisait fêtes et soirées, notamment pour le compte du NOAA, l'un des 5 clubs de l'île de Zrce, juste à côté.
Zrce Beach, c'est l'île de la fête. On peut y recevoir 20 000 personnes par jour, juste pour faire la fête. On a des Britanniques, des Australiens, des Allemands qui viennent, qui louent des appartements pas chers. Ils boivent, ils prennent quelques substances. Ici, c'est pas cher hein, pour eux, à commencer par les avions. On peut venir de Londres, pourquoi ? 20 livres ?
Sauf que la crise sanitaire a totalement stoppé le business. L'aéroport promet la prochaine rouverture de 11 liaisons à bas coût depuis l'Allemagne, la Scandinavie, mais aucune encore depuis les îles britanniques, le plus gros marché du tourisme de fête.
C'est un reportage à Zadar d'Éric Biegala et de Gilles Gallinaro. C'était le quatrième épisode de notre série sur le tourisme en Europe du Sud cette semaine. Un épisode comme les autres à retrouver évidemment sur franceculture.fr. Le temps en France métropolitaine ce jeudi restera instable avec des averses d'ouest en est. Averses parfois orageuses ce matin sur la Bretagne, en fin de journée en Auvergne-Rhône-Alpes. Comptez 16 degrés à Nantes et Bordeaux, 18 à Paris, 19 degrés ce matin à Lyon et à Lille, 22 degrés à Nice, Guillaume.
Merci Clara Lecoq.